Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette interview du midi avec mon invité qui est arrivé. Il s'agit de Frédéric Laroussari. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Alors a priori c'est une petite surprise parce que vous n'étiez pas forcément au courant que c'était du direct.
Absolument pas, en fait je croyais que je venais enregistrer une émission, enfin une émission en tout cas, cette interview. Quoi.
Ben voilà, et ben alors la magie fait que ça va être du direct. Vous venez nous parler de Médée, de cette nouvelle création de la compagnie par les temps qui courent. Alors avant qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut resituer la compagnie? Est-ce que vous pouvez nous la représenter brièvement?
Oui, bien sûr. La compagnie est sur le territoire montois depuis maintenant 3 ans à peu près. On est en résidence au Théâtre du Péglé en partenariat donc avec le Théâtre de Gascogne. Voilà. Et depuis 3 ans, à la fois on crée nos propres pièces et on fait aussi beaucoup d'actions spécifiques avec tout ce qui est politique de la ville, essentiellement au sens large, quoi. Donc tous les partenaires qu'il peut y avoir sur l'agglo montoise et puis même ailleurs, quoi. Parce que bon, ça s'exporte aussi un peu, quoi.
Ça, c'est la beauté du théâtre.
C'est ça.
Alors, pour cette nouvelle création de la compagnie Par les temps qui courent, vous avez décidé de vous attaquer à un monument de la tragédie antique, Médée. Alors, comment s'est fait ce choix?
Eh ben, en fait, ce choix s'est fait tout simplement par un coup de cœur, déjà. C'est-à-dire quand... Il y a des cycles dans une compagnie. Il y a toujours le temps de la création, puis le temps des représentations, tout ça. Après, bon... tirer un peu les bilans de tout ce qui a été fait. Et donc là, on arrivait au moment où... c'était le moment de monter une nouvelle pièce. Et j'ai beaucoup hésité entre du théâtre contemporain et des pièces beaucoup plus anciennes. Et donc j'ai lu beaucoup de choses. Et puis finalement, je me suis arrêté sur Médée. Alors j'ai d'abord lu la version de Ripide, donc auteur grec en très longtemps avant Jésus-Christ. Et puis et après j'ai lu d'autres versions du coup, puisque plein d'auteurs se sont emparés du mythe. Et donc mon choix s'est fait de monter cette pièce, quoi.
On va évoquer les thématiques dans quelques instants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez choisi de prendre plusieurs morceaux de plusieurs versions de cette Médée qui a été vue, revue et corrigée par plusieurs auteurs.
On a pris la version de base, celle de Ripide. Qui est le fondement même du mythe. J'ai choisi aussi d'incorporer beaucoup de passages de Sénèque dedans, parce que en fait j'ai trouvé le personnage de Médée en elle-même beaucoup plus intéressant chez Sénèque que chez Euripide, parce que bon, il est question de folie dans la pièce, enfin la folie qui guette le personnage principal qu'est Médée. Et en fait, ce qui est intéressant chez Sénèque, c'est qu'on voit tous les mécanismes qui mènent à ça, ce qu'on n'a pas forcément chez Euripide. Donc j'ai fait ce choix-là pour le parcours de Médée, de prendre le texte de Sénèque. Et par contre, le personnage du mari de Médée, qui est Jason, le fier héros de la toison d'or des Argonautes, j'ai trouvé le personnage beaucoup plus intéressant chez Euripide. C'est pour ça que du coup ce montage s'est fait, sachant que Sénèque a repris en fait exactement la même trame que Euripide. C'est quelque chose qui s'emboîtait très très facilement, quoi. Et après, en fait, on a décidé aussi avec l'équipe d'intégrer. En fait, on a gardé la structuration grecque de découpage de la pièce. Et donc, une tragédie grecque commence par un prologue. Et en fait, le prologue, on a décidé de l'emprunter à un auteur allemand des années 30, là pour le coup des années 1930, qui s'appelle Hans Enyan, et qui a écrit une version beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre de la pièce. Donc c'est ce qui servira de prologue.
Et alors vous avez dit que vous avez hésité entre du très contemporain et du très vieux. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est finalement porté sur le très vieux?
Ouais, le coup de cœur déjà en relisant la pièce. Bon, pour la petite histoire, moi j'avais fait aussi mon mémoire de théâtre à la fac sur la tragédie grecque, donc bon.
Il y avait un petit lien déjà.
Et en même temps, c'est vrai que j'en avais jamais monté, donc du coup c'était aussi l'occasion. Et coup de cœur principalement. Et après, bon, aussi j'ai vu dans Médée une universalité du propos qui enfin je trouve qu'il parle, enfin je trouve que cette pièce parle vraiment du monde d'aujourd'hui, dans la place des femmes dans la société, principalement, et puis aussi le tout le rapport qu'on peut avoir à l'autre, à l'étranger, à celui qui n'est pas comme nous, quoi, pour le coup. Et je trouvais que cette pièce-là, posait aussi ces questions-là. Après, ça, c'est quelque chose qui est, moi, je le cerne dans la pièce, je le pointe, mais c'est à chaque spectateur finalement de s'en emparer aussi à sa façon, en réagissant à ce qu'il peut entendre dans la pièce, quoi. J'ai pas voulu faire un travail didactique ou donneur de leçons. C'est juste, je préfère ouvrir des portes, poser des questions. Après, chacun s'empare de ça un peu comme il le désire, quoi.
J'allais venir à ce côté universel ou intemporel un petit peu de l'Antiquité. En fait, à chaque fois, finalement, on se rend compte avec ces textes qui datent de très longtemps que finalement, c'est toujours d'actualité. En fait, on va toujours réussir à rattacher un pan de l'actualité ou un fait divers ou quelque chose à ces pièces-là. Et c'est ce qui vous a fait choisir m'aider. Il y a deux thématiques, notamment donc l'exil et les femmes, que vous avez un petit peu souligné là. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail sur ces thématiques?
Oui. Voilà. En fait, Médée est le premier personnage dans la mythologie grecque, en tout cas, qui en fait ose demander les mêmes droits que les hommes. Enfin, que les hommes. En tout cas, bon, elle est petite fille du soleil dans la mythologie, donc c'est une demi-déesse en fait, et bon, les dieux font à peu près, mais les hommes aussi, les héros ou les rois en tout cas font à peu près tout ce qu'ils veulent dans cette mythologie. Ça ne choque absolument que personne que Zeus, enfin que Cronos bouffe ses gosses, sauf Zeus qui réussit à s'en sortir et libérer ses frères et sœurs, par exemple, ou que tel héros grec comme Hercule tue ses enfants, par exemple, ça ne choque absolument personne. Par contre, si c'est le fait d'une femme, déjà, on se pose un peu plus de questions et on pointe un peu plus ça du doigt. Et du coup, Médée se libère aussi de toutes ces contraintes matérielles et de toutes les contingences pour s'imposer véritablement comme l'égal de tous, quoi. Et donc voilà, je trouve que aujourd'hui ça résonne beaucoup aussi par rapport à l'avancée, bon, même s'il y a encore du boulot à faire évidemment, pardon, mais voilà, par rapport à l'avancée autour de tout ce qui est la question des droits des femmes, quoi.
Donc, vous disiez ça choque personne par rapport à Zeus et Cronos qui se tuent, tout ça. Oui. Parce que Médée, elle est infanticide, patricide,
alors, régicide. Elle collectionne, en fait. Elle est régicide, donc tueuse de rois, fratricide, puisqu'elle tue son frère. Bon, tout ça, c'est avant le début de la pièce, hein, donc on peut le raconter.
Il n'y a pas de spoil, on vous promet.
Spoil. Voilà. Et infanticide aussi. Donc, là, c'est un peu un spoil, mais bon.
Si on connaît un peu la mythologie, voilà. Une vague idée que ça se passait comme ça. Mais... Ok. Et il y a cette partie aussi sur l'exil, sur le ressenti que vous comparez un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants.
Oui, c'est l'autre aspect contemporain, je trouve, de l'œuvre. C'est qu'en fait, elle a fui par amour pour Jason, puisque lui est venu conquérir la toison d'or dans son royaume à elle. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, et ils fuient ensemble avec la toison d'or. Donc ils sont poursuivis par les guerriers, les hordes du père de Médée. Donc ils fuient déjà un premier royaume. Ils se réfugient chez Jason, où là aussi ils sont obligés de fuir parce que Médée tue le roi. Enfin bon, je simplifie, hein, parce qu'il y a des raisons à tout ça, mais bon. Donc ils sont à nouveau obligés de fuir. En fait, ils sont sans arrêt ballottés d'île en île, de royaume en royaume, et personne ne veut jamais d'eux. Et si on veut bien d'eux, à la limite, ils sont vraiment tout juste tolérés. Donc voilà, c'est un couple et leur et les gens qui, et leur suite, on va dire, enfin les gens qui sont avec eux, qui sont vraiment ballottés d'île en île. Bon, ça se passe, on est sur le bassin méditerranéen, et qui ne peuvent trouver de refuge nulle part, quoi. Donc ça aussi, pour moi, ça a fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui autour de ceux qu'on appelle les migrants, qui, bon, sont avant tout des gens qui ont de bonnes raisons de fuir de chez eux. Faut jamais l'oublier. On part jamais vraiment de chez soi parce que on en a envie. On se dit youp, tralala, je vais aller là-bas. Enfin, c'est il y a toujours un exil politique ou en relation à la guerre, à la famine, à tout ça. Et voilà. Et donc comment ces gens-là, comment l'étranger, comment nous en tant que blanc européen, comment on regarde l'étranger, comment on le reçoit, comment on l'accueille, on l'accepte aussi en tant qu'individu. Et voilà, je trouve que ça pose aussi un peu toutes ces questions-là, quoi. Puisque Médée est vraiment rejeté sans arrêt de tous les côtés, quoi.
Et c'est aussi une histoire de regard, cette pièce, sur à la fois les femmes, sur ces exilés, le regard des spectateurs, dont vous en parliez tout à l'heure, qui vont se faire une idée, qui vont relier à leur propre histoire peut-être cette pièce de théâtre. Et puis il y a le regard particulier de Médée que vous évoquez dans le dossier de presse et de Maria Callas.
Oui, alors ça c'est plus... comment dire, enfin bon, j'ai une vraie tendresse pour Maria Callas, donc comme elle a joué en fait deux fois, elle l'a joué jeune dans la version opéra, et puis elle l'a joué plus ce même personnage plus âgé dans le film de Pasolini. Il y a énormément de dans le film, par exemple, il y a énormément de gros plans sur le regard, enfin sur son regard, un peu à la Sergio Leone dans Il était une fois dans l'Ouest, ces gros plans sur les regards, et voilà le regard qu'elle-même porte sur le monde, et voilà le regard est un peu un maître mot finalement, parce que c'est le regard, comme tu disais, le regard que nous on porte sur les étrangers, le regard qu'on peut porter aussi sur une femme qui ose faire qu'elle ose elle. Évidemment, il y a le regard du spectateur. On s'est amusé aussi, du coup, dans la pièce, à mettre le regard du spectateur un peu en relief ou en exergue. Aussi, il y a beaucoup de personnages qui regardent aussi l'action, qui sont comme un relais, en fait, du regard du spectateur. Donc, voilà, quel est le regard aussi qu'on pose au sens large, chacun de nous sur le monde qui nous entoure, quoi.
C'est super que vous parliez des personnages, parce que c'est là où je voulais vous amener, donc c'est magnifique. Il y a un cœur dans cette pièce, en plus du reste des acteurs, qui est dans le prologue. C'est l'entrée du cœur, hein, c'est bien ça? Alors,
c'est le parodos, précisément, l'entrée du cœur.
Parodos, excusez-moi, je n'avais pas le terme exact.
Oui, en fait, le cœur, en fait, oui. Alors, bon, toute tragédie grecque, il y a, même les tragédies latines, il y a toujours un cœur qui est là, qui en fait, qui est vraiment la vox populi, quoi. Qui est ce que ressentent les gens dans les gens de la cité, quoi. Donc voilà. Donc là aussi, on a voulu travailler là-dessus, garder cette notion de cœur qui est toujours en fait, qui sont des parties dansées et chantées. Donc bon, ça aussi on l'a gardé, mais on l'a actualisé. Voilà, c'est pas des vieillards en toge qui viennent scander des cantiques religieux. C'est beaucoup plus contemporain, on va dire. Mais voilà, donc on a gardé cette fonction du cœur, de quel regard. En fait, c'est quand t'es pris dans les événements. Quel regard. Bon, là, en plus, des événements qui nous tombent dessus comme ça. Bon, par exemple, au premier plan, c'est la crise sanitaire, quoi. En fait, c'est voilà quel regard chacun en tant qu'individu, en tant que citoyen, porte sur la chose, quoi. Et du coup, il a travaillé sur ce ressenti-là et le partager avec les autres. Donc, c'est un peu le cœur est aussi un peu le relais de ce que peuvent ressentir les spectateurs, quoi, face à l'action qui se déroule.
Combien d'acteurs et d'actrices sur scène pour cette pièce?
Alors, ils sont 6 sur le plateau à jouer, chanter, danser, faire de la musique. Il y a aussi toute une partie pyrotechnique dans le spectacle, parce que Médée, étant petite fille du soleil, ça me semblait évident qu'il fallait travailler sur la notion de feu. Bon, alors, ce qui peut poser des problèmes aussi après techniques, enfin en tout cas bon, les problèmes se résolvent toujours, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a, voilà, il faut être aussi vigilant par rapport à ça, quoi. Mais en fait, dans l'équipe, les gens qui sont sur le plateau, chacun a aussi une fonction en plus dans le spectacle. Je parlais des feux, Alexandra qui joue dans le spectacle est aussi pyrotechnicienne, donc c'est elle qui en charge les feux. Julie qui joue dans le spectacle est aussi chorégraphe et danseuse, donc c'est elle qui a pris en charge la partie danser. David qui joue dans le spectacle est musicien, c'est lui qui a créé l'univers sonore, bon, etc. quoi. Donc voilà, Maria qui joue m'aider à travailler avec moi sur la dramaturgie, et Jean-Marc qui joue Jason a travaillé lui sur les costumes, c'est lui qui a créé aussi les costumes de la pièce. Donc chacun a aussi un rôle, une fonction supplémentaire dans le
pour accompagner le metteur en scène,
ouais, dans le spectacle.
Il y a eu le choix aussi de dans le rôle de Médée choisir une actrice étrangère.
Oui.
Pour justement que cette notion d'exil soit encore plus palpable.
Oui, et puis parce que Médée est toujours l'étrangère en fait, puisque comme je disais tout à l'heure, elle est personne ne veut d'elle nulle part, donc elle est voilà, elle est sans cesse rejetée. Et en fait, être étranger, c'est pas... en fait, au théâtre, bon, par exemple, pour un acteur, jouer un vieux, jouer un personnage très différent de ce qu'on peut être nous, c'est très jouissif et bon, et ça marche. Après, être étranger, c'est au-delà du fait de jouer, c'est pas simplement prendre un accent ou se transformer physiquement. Je sais pas si je devais jouer un personnage noir comme Othello dans la pièce de Shakespeare. Bon, mais je pourrais très bien me maquiller entièrement en noir. On pourrait y croire. Là, il s'agit le fait d'être étranger, c'est plus intime en fait. C'est plus voilà, quand on habite ailleurs que là où on est né, là où on vient, d'où on vient, on a forcément un regard différent sur les choses et il y a quelque chose qui est chargé différemment. Et c'est pas tellement, je pense, c'est moins du domaine de l'acteur de le composer que du domaine du ressenti de ce qu'on est en tant qu'individu. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait une actrice étrangère qui joue ce personnage-là.
Mais ça fait partie de pas mal de revendications, par exemple pour les personnes trans ou LGBT ou les personnes noires qui disent, ben, nous, on aime autant que ce soit une personne trans ou une personne LGBT ou une personne noire qui joue les rôles des trans, LGBT et personnes noires. Qu'il y a une forme d'incarnation qui va être beaucoup plus réelle et en termes de représentation, c'est quand même aussi nettement plus pertinent.
Oui, enfin, en tout cas, là, je suis peut-être pas forcément complètement d'accord avec ça, parce que, l'exemple que je prenais, moi, ça m'est arrivé de jouer un personnage qui était un aborigène australien. Bon, alors, comme j'ai plein de barbe et plein de cheveux, c'est c'est pratique. Voilà, où j'avais cette pièce, j'avais 2-3 heures de maquillage avant pour être prêt et crédible dans le personnage. Je pense au final que je l'étais. Donc je crois aussi au jeu d'acteur quand même, à la transformation possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des endroits où il faut aller quand même un peu au-delà de ça, et parce que je sais pas, c'est même dans c'est plus une histoire de vécu, quoi, au final.
Alors pour revenir à Médée, à la mise en scène et à ce monument quand même qu'est Médée en termes de littérature, de mythologie, c'est pas trop de pression de se lancer dans un défi pareil?
Ouais, c'est pas mal quand même. Bah, c'est sûr que beaucoup de gens l'ont monté avant. Alors bon, comparer ou pas, bon, c'est pas, je crois que c'est pas tellement forcément la question, mais non, c'est que bon, voilà. Moi, je fais confiance aussi en mes choix et dans les gens avec qui je travaille. Et bon, il y a eu ce vrai coup de cœur pour, en relisant la pièce, me dire ouais, tiens, j'ai vraiment envie de monter ça. Du coup, après, bon, j'ai tiré les liens dont on parle là, qui je trouve prenaient du sens aujourd'hui. Donc après, voilà, c'est un travail de création. Bon, c'est vrai qu'il y a eu tout ce montage du texte aussi qui est une grosse part de boulot aussi. Et c'est vrai que bon, quand on voit la masse de tout le travail qui a été fait, justement, en plus, alors avec la danse, avec la musique, avec les feux, avec les costumes, le décor, la création lumière, tout ça, bon, voilà, c'est pas, en fait, je crois que quand on est dans le jus, on se pose pas la question de se dire, oulala, je monte une tragédie grecque ou je monte les fourberies de Scapin, par exemple, qui, pareil, ont été montées plein de fois. C'est juste qu'en fait, on est au boulot. Après, c'est plus la gestion du travail et de la masse, en fait, qui a géré, qui des fois fait que le poids sur les épaules est quand même un peu lourd, quoi. Après, bon, il y a aussi eu du coup avec la crise sanitaire. En fait, on aurait dû le créer en avril dernier.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça fait 3 ans déjà que vous êtes dessus.
Ben moi, ça fait 3 ans que je suis dessus. Bon, depuis le début de la production, tout ça. On aurait dû. La finalité, c'était en avril dernier. Bon, voilà. Là, la nouvelle finalité, c'est bientôt pour le coup. Mais bon, c'est 6 mois après. Donc c'est vrai que pendant 6 mois, faut aussi maintenir sa propre énergie, toujours en insuffler aussi aux autres, à l'équipe et tout ça, sachant que bon, chacun aussi est passé par la période de confinement, par une période de doute, par tout ça. Donc
Ça va vous par rapport à ça? Période de doute, tout ça, c'est mieux là. Parce qu'il y a une première effectivement jeudi prochain et plein d'autres dates prévues, mais on est quand même sur une période de flottement.
Pour l'instant, tous les indicateurs sont ouverts, c'est-à-dire que en fait, bon, il y a des protocoles sanitaires dans les théâtres, donc on peut y aller. On peut aller. Je le dis bien clairement, on peut aller sans aucun souci au théâtre, puisque voilà, il y a des protocoles en place et tout est fait comme il faut. Donc à ce niveau-là, voilà, il y a pas de problème. Par contre, on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui consiste en fait à se dire que si il y a un membre de l'équipe qui chope le virus ou même qui est simplement qu'à contact, on joue pas, quoi. Donc il y a encore ce risque-là, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, de toute façon, on n'en saura rien, quoi. Enfin.
Croise les doigts pour que jusqu'à jeudi prochain et la première à Villeneuve-de-Marsan, à l'Alambic des Arts à 20h30, tout se passe bien.
Voilà.
Très bien. Et puis il y a d'autres dates et notamment la prochaine, ce sera le 3 novembre au Théâtre de Gascogne, au Pôle, très exactement à Saint-Pierre-du-Mont.
Oui.
Il y a des séances pour les scolaires aussi.
Oui.
Ah, c'était ça. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte et qu'on rappelle à nouveau les dates. Vous faisiez partie du dispositif Culture en Herbe.
Oui.
Est-ce que vous avez travaillé sur cette pièce de Médée? Parce que je sais qu'il y a tout un dossier pédagogique aussi pour les scolaires. Et...
Oui. Alors oui, on a travaillé dans le cadre de Culture en Herbe avec le département. Et donc on était
à Montfort, c'est ça?
À Montfort en Chalosse, au collège Serge Barranx. Alors évidemment, on n'a pas pu aller au bout à cause du confinement, on n'a pas pu aller au bout de la création qui devait se faire avec eux. Mais en fait, là, on s'était appuyé en fait sur parallèlement à Médée et avant la création de Médée, on a en fait créé une pièce de théâtre forum dont on a en fait extrait des thématiques présentes dans Médée pour l'écrire. Et en fait, on a travaillé avec les élèves du collège Serge Barranx autour de la notion de théâtre forum. Donc, c'est cette forme de théâtre qui, en fait, invite les spectateurs à débattre de la pièce qu'ils ont vue, mais qui ne se termine pas, et à eux-mêmes imaginer la suite. Et voilà. Donc là, on travaillait avec eux justement sur les relations hommes-femmes. Eux en tant que du coup collégiens et habitants à Montfort, ils ont forcément leur propre réalité par rapport à ça, leur propre vision des choses. Ils ont rencontré aussi des anciens de l'EHPAD dans ce même cadre pour échanger sur comment c'était à leur époque à eux. Et donc on devait créer ensemble une pièce de théâtre forum sur cette thématique là. Et on n'a pas pu aller au bout. Mais ils ont vu aussi par contre des répétitions de Médée. Donc en fait, ils ont eu quand même un parcours assez complet, je crois, et assez riche sur tout ça, quoi. D'ailleurs, je pense qu'ils viennent aux représentations au pôle début novembre. Quoi.
Parce qu'il y a une partie pour les scolaires. Il y a une pièce aussi que vous avez montée qui s'appelle Médée aux sources du mythe pour comprendre.
Ouais, en fait, on voulait faire une version plus légère de la pièce en lecture musicalisée. avec un musicien et une actrice. Et en fait, il a pas pu se monter à cause du toutes les dates qu'on a eues. Parce qu'autant les dates de Médée qu'on avait eues en avril-mai ont été reportées là en octobre-novembre, autant toutes les dates qu'on avait de ce spectacle-là ont toutes été purement et simplement annulées. Donc pour l'instant, il est un peu en stand-by, quoi. Il est presque fini de monter, mais pas tout à fait. Et en même temps, comme là on n'a pas d'opportunité, bon, on est un peu le cul entre deux chaises, quoi, quand même.
Comme beaucoup de gens, on comprend. Oui. Est-ce qu'il faut réserver pour la représentation, la première jeudi prochain à l'Alambic des Arts?
Oui, mais j'ai pas de numéro à vous donner, malheureusement.
Moi je crois que j'en ai un. J'ai le 06 61 45 96 53.
Oui, c'est celui de la compagnie, mais c'est pas le numéro pour les réservations.
D'accord.
Donc voilà, donc je ne le connais absolument pas, parce que il y a plein de choses qui se font au dernier moment aussi.
Je pense que vous allez m'envoyer un mail et que je le mettrai dans l'article.
D'accord.
Ce numéro. Très bien. Bon, mais merci beaucoup Frédéric Larosière d'être venu.
La première le 15 octobre à Villeneuve, après 3 novembre.
Au pôle.
Et dans les parages, on a le 13 novembre aussi à Mimizan.
Exactement.
Voilà. Et après, on sera aussi à Biscarros, mais ce sera en janvier.
Et à Saint-Paul-les-Dax aussi.
Ah oui, et en avril.
Mais en mars.
Ou en mars. Voilà, pardon.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à toi, à bientôt.
Salut.